Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En cette veille de week-end de Pâques, c'est en partenariat avec le magazine Pèlerin, une émission sur la passion de Jésus de Nazareth que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ambline, bonjour à tous. Vous avouerez qu'en cet après-midi de Vendredi Saint, le sujet s'imposait. Je sais du reste qu'il va plaire à Maxence qui nous l'avait suggéré. Alors voilà, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous proposer et nous suggérer comme ça des sujets d'émission. Lundi prochain, ce sera donc le lundi de Pâques, notre rendez-vous télévisé de l'ombre d'un doute sur France 3 sera consacré aux reliques de la Passion, avec des images assez fortes, je crois, que nous sommes allés tourner jusqu'à Jérusalem. L'un des grands témoins de cette émission, c'est Jean-Christian Petit-Fils, que je suis heureux de recevoir dès aujourd'hui, à ce micro, aux côtés de Dominique Lang, de la rédaction de Pèlerin.
Vous avez donc trois invités aujourd'hui.
Et oui, parce qu'il y a en effet un troisième ou une troisième invitée. Je me fais une joie d'accueillir tout à l'heure Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt et qui vient de publier un livre magnifique présenté comme les souvenirs d'un des frères de sang de Jésus. Tiens, tiens.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Christian sur les origines du CD et du DVD.
Autant dire que notre programme est un petit peu chargé en cette veille de week-end. Pas de temps à perdre. Tout de suite, je vous propose de suivre le long cheminement de la couronne d'épines.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Nous avons tous nos petites marottes, vous savez, et moi, en période pascale, j'aime bien écouter les deux passions de Jean-Sébastien Bach, la passion selon saint Matthieu et la passion selon saint Jean. C'est de cette dernière qu'est extrait l'air que vous allez entendre maintenant. Avec une joie douloureuse, avec une peine amère et oppressante, ton bien suprême dans la souffrance de Jésus, vois comme les épines qui le déchirent font épanouir pour toi les fleurs du ciel, dit cet extraordinaire psaume qu'on entend là sous la baguette de Nicolaus Arnoncourt avec la formation Das Alte Werk. Évidemment, nous allons parler de cette couronne d'épines dont saint Jean nous dit, c'est chapitre 9, versets 1 et 2, « Pilate prit alors Jésus et le fit flageller, les soldats tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent de manteau de pourpre. » Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Alors cette couronne d'épines, il semblerait, je dis bien il semblerait, il faut prendre tout ça toujours avec un peu, dès qu'on va parler des reliques, vous savez, les choses sont légèrement hypothétiques. Il semblerait qu'elle ait été retrouvée en 326 de notre ère, c'est en tout cas l'année de son transfert à Constantinople, et elle y était toujours, elle était toujours dans la capitale de l'Empire byzantin en 1204, lorsque Constantinople est mise à sac par les croisés conduits par les Vénitiens, vous savez. Or, à la suite de cette immense razzia, il y a eu d'autres malheurs qui se sont abattus du reste sur Byzance. L'Empire latin, comme on l'appelait, était au bord de la banqueroute, et en 1238, on voit Baudouin II de Courtenay se rendre en France. Ce Baudouin II de Courtenay, c'est tout simplement le fils de l'empereur de Constantinople, Baudouin Ier. Que vient faire Baudouin II à la cour de France? Il vient quérir du cousin, comme on l'appelle, titre de chrétienté, du cousin Louis IX, le futur Saint Louis, une aide pour son empire au bord de la faillite. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des guerres contre les Bulgares, notamment depuis trois ans, depuis 1235. Bref, le conseil à Byzance a décidé de mettre la couronne d'épines en gage pour renflouer les caisses de l'Empire, et Baudouin vient demander à Saint-Louis d'accepter la relique. Sur ce point, les récits divergent. Selon certains, l'empereur voudrait vendre la couronne au roi de France. Pour d'autres, il a seulement l'intention d'en faire don afin d'épargner le trésor et d'éviter qu'il ne tombe dans les mains d'assaillants éventuels ou des riches marchands qui voudraient s'en emparer. Un trésor bien trop symbolique pour qu'il vienne à tomber en n'importe quelle main. Louis IX accepte, en tout cas, il accepte même d'enthousiasme. Il va envoyer deux dominicains, les frères Jacques et André, pour récupérer ce précieux trésor. Il les envoie à Constantinople. L'un des deux a d'ailleurs déjà vécu là-bas. Il a souvent eu l'occasion d'adorer la relique. Il sera donc en mesure d'en déterminer l'authenticité. Tous deux sont accompagnés par un officier de Baudouin II qui s'appelle Nicolas de Sorello, porteur de lettres patentes justifiant le transfert. Seulement voilà, mauvaise surprise, quand tout ce petit monde arrive à Constantinople, c'est pour découvrir qu'il est trop tard. La couronne a été mise en gage chez un très riche marchand vénitien qui s'appelle Nicolas Quirino. Elle a été gagée, cette couronne, pour un délai défini de 5 mois. Passé ce délai, si elle n'a pu être rachetée, elle sera propriété définitive des Vénitiens. Inutile de vous dire que le marchand dont je vous parle est missionné par son doge, par son chef d'État, évidemment. C'est donc le premier voyage, le début du voyage de la couronne vers Venise. Et il va falloir que nos émissaires la suivent dans ces pérégrinations. Les deux envoyés de Louis IX, les ambassadeurs, un certain nombre de notables de l'Empire partent avec la couronne. Avant de partir quand même, on constate l'authenticité de la relique. On la dispose dans un coffre de bois scellé du sceau des seigneurs français, des envoyés de Saint-Louis. Vous voyez l'ambiguïté déjà de ce premier transport. On embarque aux alentours de Noël 1238. C'est pas une période propice à la navigation, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cependant, si l'on en croit l'abbé Jean-Auguste Gosselin, qui écrit ça au 19e siècle, il nous dit que le voyage s'est passé à peu près sans encombre. Il précise tout de même que l'empereur grec Vatas, c'est Jean III Ducasse Vatas, qui était souverain de Nicée. Pas oublier qu'à l'époque, l'Empire byzantin est en pleine explosion et que des souverainetés se font jour un peu partout au coin de l'Empire. Cet empereur, étant instruit de la translation, nous dit Gosselin, mit en mer plusieurs galères pour surprendre le vaisseau des Latins avec le sacré dépôt qu'il portait, mais la main qui le conservait, la main de Dieu sous-entendu, depuis tant de siècles, le fit arriver à Venise sans aucun fâcheux accident. La couronne est donc à Venise, on la met en sécurité dans la chapelle de la basilique Saint-Marc, André veille sur la relique, Jacques de son côté retourne en France pour prévenir le roi de la situation et Louis IX le renvoie avec l'ordre de revenir cette fois avec la précieuse relique. La France a accepté de lever le gage et de payer cette somme gigantesque de 135 000 livres de l'époque. C'est une somme, certains historiens estiment que ce serait entre un tiers et la moitié du budget de l'État royal. Vous voyez, c'est absolument colossal. Une transaction qui a deux portées, une portée religieuse que je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Ça va faire de la France un des pôles de la chrétienté comme l'avait été Rome ou comme les Jérusalem, évidemment. Ça a également une portée politique. Ça permet à Louis IX d'offrir un soutien financier à l'Empire d'Orient, ce qui n'était pas négligeable dans la situation géostratégique de l'époque. La couronne se met en route, si je puis ainsi m'exprimer. Elle va transiter par le nord de l'Italie, par une partie de l'Allemagne. On se prépare d'ores et déjà dans le royaume de France à l'accueillir comme il s'y est.
Vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez bien sûr réagir cet après-midi, nous envoyer vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, par mail europe1.fr. Il y a également la page Facebook de l'émission sur Europe 1. Nous revenons dans un instant avec vous, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la couronne d'épines.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
En ce vendredi, veille de week-end de Pâques, au cœur de l'histoire est consacré à la couronne d'épines, son histoire et son voyage, Franck Ferrand.
C'est l'archevêque de Sens que le roi Louis IX a chargé de raconter l'histoire de ce voyage. Et il nous dit que pendant tout le cheminement de la couronne, il ne tomba pas une seule goutte de pluie sur ceux qui portaient ou qui accompagnaient la Sainte Couronne, quoique le ciel fût extrêmement chargé et qu'il plût très souvent lorsqu'ils étaient arrivés au lieu où ils devaient s'arrêter. Évidemment, on en fait beaucoup, si je puis dire. dire. À l'époque, Saint Louis est très impatient. Il faut imaginer les deux cortèges, parce que, allez, disons hein, clairement que le domaine royal n'est pas très étendu. Il ne va pas au-delà de Sens, d'Orléans, de Bourges. Et dès que la couronne arrive à Troyes, on envoie un messager pour prévenir Saint Louis, enfin Louis IX, qui se met en route, accompagné de sa mère, de ses frères, d'un certain nombre de prélats, de seigneurs de sa cour. Et le 10 août 1239, les deux cortèges se rencontrent à Villeneuve-l'Archevêque. On est dans le département actuel de l'Yonne. La région est en fête depuis une semaine. Le roi et l'archevêque procèdent à la reconnaissance de la relique. Imaginez l'émotion, la ferveur populaire. Hein, tout ça est très chargé de spiritualité. L'archevêque de Sens nous dit... Après avoir vérifié soigneusement les documents accompagnant la relique, parmi lesquels l'engagement de la couronne à Nicolas Quirino, le roi, ayant constaté l'intégrité des sceaux du coffre de bois dans lequel elle a été transportée, puis ouvert la cassette d'argent et enfin le réceptacle d'or dans lequel elle était abritée, put la montrer à tous. Ce fut la première ostension de la couronne en France. Là, tout le monde retient son souffle. Et l'on se met en procession en direction de Paris, bien entendu. La couronne est d'abord portée à l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif, hein, à Sens. Environ, ça fait à peu près 1,5 km à pied, hein, un de nos kilomètres, si je puis dire. Alors il faut imaginer cette chasse d'argent portée par Louis et son frère, le roi Louis, hein, et par son frère Robert d'Artois. Tous deux sont vêtus d'une simple cotte de laine, ils ont les pieds nus. Ils veulent montrer, évidemment, leur extrême humilité devant la Sainte relique. Il faut les imaginer précédés par tout le clergé qui porte d'autres reliques, suivis des seigneurs et des prélats, eux aussi nu-pieds. Les fidèles sont présents tout au long de la procession. Il faut imaginer que c'est une procession qui va de jour et de nuit. On a des flambeaux partout pour accompagner, bien entendu. Quand je parle d'une ferveur, c'est une très grande fête qui s'est emparée du royaume de France. Il y a un sentiment de piété très grand, une ferveur palpable. On est au Moyen-Âge, on va revenir évidemment sur cette piété qui entourait les reliques. Le cortège ne va faire que deux arrêts avant d'arriver à Paris, un à Montreux, un à Melun. On aurait pu faire le voyage par voie fluviale, hein, bien entendu, et même entrer dans Paris par, alors certains diront la Seine, d'autres l'Yonne, disons la Seine parce que c'est la tradition. Toujours est-il que le 18 août, le cortège débarque au niveau du château de Vincennes et qu'on va faire une entrée dans la capitale, enfin dans la ville royale, par voie de terre, histoire de marquer davantage les esprits, bien entendu. Et de nouveau, le roi, son frère, pieds nus, vêtu d'une simple tunique, porte la chasse d'argent sur leurs épaules. Imaginez l'entrée triomphale jusqu'à l'église Saint-Antoine où l'on dépose la chasse pour une seconde ostension solennelle, grand-messe, etc. On place la chasse dans la chapelle Saint-Nicolas du palais en attendant, eh bien en attendant que soit bâtie la grande chasse, si je puis dire. L'extraordinaire trésor d'architecture qui a été construit spécifiquement pour accueillir cette sainte relique de la couronne d'épines. Évidemment, cette sainte chapelle que nous avons eu l'occasion de visiter pour cette émission à l'automne dernier, rappelez-vous, je vous parlais de cet incroyable écrin de verre, de vitraux, absolument incomparable. C'était une belle émission que nous avons fait à l'automne. Nous avions parlé de la couronne d'épines, je ne sais pas si nous l'avions fait assez. Vous voyez qu'on a toujours dans cette émission l'occasion de se rattraper.
Passion selon Saint Jean, composé par Jean-Sébastien Bach et dirigé par Nicolaus Arnoncourt.
Le moment est venu de saluer mes trois invités. Bonjour Françoise Chandernagor, bonjour Jean-Christian Petit-Fils et bonjour Père Lang. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes de la rédaction de Pèlerin. Il faut dire que l'émission qui va être diffusée lundi soir, L'ombre d'un doute, est en partenariat avec Pèlerin. Et nous avons eu pour cette occasion la possibilité de voir la tunique d'Argenteuil. Alors on en dira un mot tout à l'heure. Sur cette sainte couronne d'épines, elle est toujours visible aujourd'hui. Elle est d'ailleurs en ce moment même présentée aux fidèles à Notre-Dame de Paris.
Elle est présentée régulièrement à la vénération des fidèles et des touristes aussi, parce que ça attire beaucoup de monde. Et c'est une des grandes reliques qui sont abritées dans le trésor de Notre-Dame de Paris.
Et que l'on montre à Pâques, bien entendu.
Alors, Pâques,
pour tous ceux qui ne sont pas familiers des rites chrétiens, il faut peut-être rappeler évidemment que Pâques est la célébration du martyre et de la résurrection de Jésus.
Pâques, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois un souvenir de la religion juive. C'est la libération de l'esclavage du peuple hébreu et qui est devenu un mémorial historique que chaque année la communauté juive célèbre comme souvenir de la libération qu'ils doivent vivre aujourd'hui encore. Et c'est ce souvenir-là que le Christ, que Jésus de Nazareth, a repris à son compte en lui donnant un sens plus universel encore.
Que sait-on, Jean-Christian Petit-Fils, de cette couronne d'épines qui est présentée à la vénération des fidèles ?
Alors, on sait physiquement que c'est un cercle de paille dure, de jonc.
Extraordinairement
pressé,
bien conservé, il faut dire.
Extraordinairement bien conservé, mais ça, c'est pas étonnant.
C'est très sec.
Entouré dans un reliquaire de cristal, avec six pièces pour les des agrafes.
Certidor, oui.
Voilà, certidor, donc c'est une très belle pièce. Alors, ça a été fait sur un dessin de Viollet-le-Duc,
la nouvelle présentation en date du Second Empire, oui.
Voilà. Au-delà, c'est un cercle qui est plus large qu'une tête, donc qui fait 21 cm, c'est-à-dire il y a une possibilité, en effet, de qu'on ait pu mettre des épines. Mais les épines ont disparu, puisque Saint-Louis en a distribué, et certaines sont restées à Constantinople, etc. Je crois qu'on peut dire quelque chose sur les reliques d'une façon générale. C'est que aujourd'hui, c'est évidemment pas un problème de foi qu'il y ait des reliques vraies ou fausses. Ça ne change pas pour les chrétiens la foi. C'est évident. Il y a eu au Moyen Âge des ferveurs débordantes, une dévotion intense autour des reliques et des fausses reliques parce que il y avait aussi des aspects pécuniaires. On a parlé d'une robe de la Vierge, des cheveux de la Vierge, du lait de la Vierge. Enfin, c'était un morceau de la barbe de Saint-Pierre. Tout cela, évidemment,
oui,
c'était
quand on commence
très,
à entrer dans les reliques, notamment dans les petites reliques, si je puis dire.
Exactement.
Ça devient passablement, comment dirais-je, funeste, tout ça.
Alors, la vénération quand même subsiste. La sainte couronne d'épines est vénérée par les fidèles. Aujourd'hui aussi, vous avez les reliques de Thérèse qui font le tour du monde. Thérèse de Lisieux, c'est assez étonnant. D'ailleurs, Thérèse de Lisieux, cette petite religieuse qui meurt à 25 ans dans son couvent et qui dit « Je voudrais faire le tour du monde et aller dans toutes les îles ». Et en effet, ces reliques, ces restes, vont dans les îles les plus lointaines. Alors, c'est donc pas un problème de foi. Il y a eu des expertises scientifiques ont été faites, en particulier sur un suaire qu'on appelle le suaire de Cadouin, et on s'est aperçu que c'était un étendard mahométan de la fin du XIe siècle, d'origine fatimide. Voilà. Donc là, c'est totalement invalidé. Il y avait aussi des reliques de contact. Ce qui permet,
alors ça permet expliquer ce que c'est que la relique de contact.
Alors c'est tout ça
permet de multiplier les reliques. Hein.
Voilà, on fait toucher une relique authentique ou prétendument authentique, peu importe. Et immédiatement, la copie devient une relique authentique. Alors on l'a fait pour des clous de la Passion, donc du multiplication des clous, etc. Pour le chrétien, évidemment, la relique est un moyen, c'est pas une idole en soi, ça je crois que c'est très important, on montre des ossements, on montre des objets appartenant à un saint ou à Jésus, c'est un moyen de conduire au Christ ressuscité et vivant, c'est autre chose qu'une idolâtrie. Et puis, il y a la science qui est là et qui va nous dire...
Et qui nous intéresse
si c'est vrai,
dans une émission
si
historique, évidemment.
Absolument. Bon. Alors, que la couronne d'épines est
authentique?
Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas eu d'expertise scientifique, ni de congrès constatant l'authenticité de la couronne d'épines. C'est pas impossible, mais ce n'est pas non plus... une certitude.
Sur la couronne, vous êtes très réservé, Jean-Christian Petit-Fils, mais je dois dire que lorsque nous avons préparé l'émission pour France 3, l'émission qui sera diffusée lundi soir, je me disais que nous allions avoir du mal à trouver des historiens qui allaient défendre l'authenticité d'un certain nombre de reliques. Et à ma grande surprise, et à mon grand plaisir, je dois vous l'avouer, parce que c'était très bien pour cette émission, vous êtes, tout à fait convaincu de l'authenticité d'un certain nombre des reliques de la Passion. Lesquelles ?
Oui, alors, ça, encore une fois, c'est un aspect, une enquête historique et scientifique.
Oui, bien sûr.
Il y a trois grandes reliques qui résistent aux analyses et aux critiques.
C'est il y en a une qui est très très célèbre.
Le linceul de Turin.
Bien sûr.
Le suaire d'Oviedo, qui est un grand linge de 85 cm oui. sur 50 cm et qui est couvert de taches.
Qui donc est à Oviedo en Espagne.
Sur le visage, qu'on aurait mis sur le visage de Jésus. Et puis, la fameuse tunique d'Argenteuil que vous avez vue. Ces reliques ont, alors il y a eu des analyses controversées, notamment au carbone 14. Il reste que depuis ce temps-là, des analyses, il y a eu 25 ou 30 congrès aux États-Unis en particulier sur le linceul de Turin, en France, en Europe, en Italie, beaucoup. Donc, et avec des historiens, des savants qui ont et des équipes multidisciplinaires qui ne sont pas nécessairement des gens engagés dans la religion chrétienne, qui sont athées ou agnostiques, mais ils apportent des éléments qui aujourd'hui, en l'état actuel, moi, me font considérer que ces reliques sont authentiques, oui, jusqu'à preuve du contraire.
C'est ça. En absence de preuve du contraire, vous considérez qu'elles sont authentiques. Alors, si vous voulez bien, pour les minutes qui viennent, nous allons nous concentrer sur ces trois grandes reliques.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, en cette veille de Pâques, vous nous parlez, Franck Ferrand, de la Passion du Christ et ses reliques. Vos invités, l'historien et écrivain Jean-Christian Petit-Fils, auteur de Jésus chez Fayard, la romancienne et historienne Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt, auteur de Vie de Jude, frère de Jésus, paru aux éditions Albin Michel, et le journaliste appellerin, le père Dominique Lang.
Alors, on me signale, c'est l'association du Temple de Paris qui me dit ça, que aujourd'hui même, donc en ce vendredi saint, de 10h à 17h, la couronne d'épines est présentée aux fidèles à Notre-Dame de Paris. Voilà, je pensais que c'était en cette période, mais c'est plus que ça, c'est en ce moment même, à l'heure où...
Vendredi de carême, c'est, voilà, c'est ça. Aussi. Ouais.
Alors, Dominique Lang, vous avez évidemment un point de vue sur ces reliques. Ce que j'aimerais avoir à travers vous, c'est le point de vue, c'est le regard de l'Église elle-même. Comment ces reliques sont-elles considérées aujourd'hui par la hiérarchie catholique?
De manière très contrastée, c'est-à-dire que d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Église? Au sein de l'Église elle-même, il y a des avis très très contrastés, très opposés, parfois très virulents. Quand un Calvin au Moyen-Âge, au moment de la réforme protestante, critique de manière massive les reliques comme un marchandage ignoble, c'est bien les chrétiens qui s'expriment aussi, c'est bien l'Église qui s'exprime aussi. Évidemment, ça a été souvent sous des formes très virulentes, très violentes, parfois avec des oppositions très dures. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église catholique romaine, pour parler d'elle, puisque les églises sont nombreuses aussi, l'Église catholique romaine exprime beaucoup de prudence, mais elle accompagne une dévotion populaire qui la déborde de toutes parts, d'une certaine manière. Et on retrouve ça dans toutes les grandes traditions spirituelles. On retrouve ça dans l'islam, dans le judaïsme. Il y a une dévotion populaire qui demande des signes, qui demande de pouvoir toucher.
Et du tangible, voilà.
Et du tangible, ça, oui. Qui demande d'être d'une proximité, qui demande que ce qu'elle croit dans sa tête, elle puisse se toucher de ses mains. Et cette demande-là sera toujours présente jusqu'au bout. Et on le voit même dans l'Évangile. Jésus lui-même, on touche son manteau, on veut qu'il fasse des miracles. Les pharisiens eux-mêmes demandent à Jésus des signes, alors qu'ils étaient les garants de la loi juive. Donc cette dévotion populaire a toujours existé. La question, c'est comment les autorités religieuses peuvent l'accompagner. Et ça, c'est une forme de canalisation qui est compliquée.
Qui dépend un peu de chaque pasteur, hein, de chaque
prêtre. Qui dépend de chaque pasteur et qui dépend de l'histoire. Et l'histoire de France a quand même été... très tumultueuse, entre autres pour la présence catholique. Et quand, avec la Révolution française, un certain nombre de ces lieux, de ces reliques, de ces objets ont été brûlés, détruits, dans une crise iconoclaste assez violente, il a fallu survivre après. Donc certains ont pris distance en disant « bah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin et que tout ça est secondaire ». D'autres considèrent que oui, mais ça fait partie de l'héritage et donc il faut l'honorer.
Vous comprenez, Françoise Chandernagor, cette dévotion populaire pour les reliques?
Non, mais je la constate. Donc,
vous ne la partagez pas, en tout cas, disons.
Non, je ne la partage pas, parce qu'il y a tant de reliques, et même près de chez moi, dans la Creuse, à 8 km, on sort tous les lundis de Pâques, 3 gouttes de sang du Christ, je ne sais pas très bien comment on les a récoltées, et puis les tenailles et les clous de la Passion, et je me dis qu'avec tout ce qu'il y a comme clous de la Passion en France et comme tenailles, il y a de quoi monter un magasin de bricolage, quoi, à peu près. Donc ça me gêne, je sais que les Byzantins ont été des faussaires et des marchands habiles, et donc la seule relique...
Surtout que les Vénitiens sont venus s'interposer.
Ah oui, en plus, tout ça, c'était des grands commerçants. La seule relique qui m'est troublée un certain temps, c'est le linceul de Turin. Même si je savais ce qu'en avait dit l'évêque de Troyes à l'époque où il est apparu, il avait dit que c'était un faussaire et qu'il connaissait le faussaire qu'il avait fait. Bon, Mais j'ai été troublée longtemps jusqu'à la datation par le carbone 14. Voilà. Et moi, je m'y plie.
Moi, je me rappelle une émission d'Alain Decaux absolument extraordinaire où Alain Decaux nous montrait un très grand nombre d'éléments qui tendaient à prouver l'authenticité du suaire de Turin. Et puis, quelques temps plus tard, je crois que c'était 18 mois plus tard, est arrivée cette datation au carbone 14 qui a voulu faire du suaire de Turin une étoffe du 12 ou 13e siècle, Jean-Christian Petit-Fils. C'est ça?
Oui. Alors, c'est une analyse qui a été faite en 1988. Le 13 octobre, on a proclamé les résultats et on a donné une fourchette 1260-1390. Cela étant, cette analyse a été au carbone 14 faite par trois laboratoires tout à fait remarquables, Oxford, Zurich et Tucson en Arizona, n'a pas été faite dans des conditions parfaitement satisfaisantes, avec des tests en aveugle qui avaient été prévus, qui ont été abandonnés, un quatrième échantillon de contrôle qui a été introduit au dernier moment. Des résultats qui ont été publiés dans la revue Nature uniquement sous forme d'un tout petit article de 4 pages sans la publication de toutes les données. Tout ça a fait qu'on a pu s'interroger sur sur le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Alors on a parlé de faussaire, de manipulation. Moi je ne le pense pas, mais je pense qu'il y a un problème. Ce problème, certains ont cru le déceler, un scientifique américain qui s'appelle Rogers, Ray Rogers, qui a dit c'est une zone de rapiessage et on voit d'ailleurs sur cette zone des traces d'une substance qu'on appelle la vanilline qu'on ne trouve pas sur d'autres prélèvements du linceul. On a voulu donner la même coloration sur cette zone et en effet au moment des ostensions à Liré, c'était dans la zone où les chanoines de Liré tenaient grande pièce de 4,40 m de long sur 1,10 m de large, qui présente donc la face ventrale et la face dorsale d'un homme flagellé, crucifié, qui a reçu un coup de lance, et dont on ne sait absolument pas aujourd'hui scientifiquement comment l'image, c'est faite.
Cette image, elle apparaît de façon ténue lorsqu'on la voit à la lumière du jour, mais c'est l'expérience photographique qui a permis de la révéler réellement. On est au tournant du XXe siècle lorsqu'un photographe vient faire un grand cliché très précis du suaire de Turin et en développant sa plaque, parce qu'à l'époque c'était des plaques photographiques, il est sidéré par ce qu'il voit.
Il manque de lâcher la plaque tellement il est sidéré par ce qu'il voit, parce qu'il voit en effet un positif. Le linceul de Turin se comporte comme un négatif.
En fait,
voilà. Et donc, négatif sur négatif, ça donne positif. Et c'est les images qu'on reproduit du linceul de Turin, ce sont des négatifs. Quand on voit le linceul de Turin, on voit des quelques taches. Et il faut donc inverser l'image pour comprendre. Donc, c'est une image déjà encodée. On sait que ce n'est pas une peinture. Ça, il y a eu des travaux américains qui ont été faits en 1978, le STIRP, 33 savants de toutes disciplines.
Oui, il n'y a pas d'apposition de rien.
Ce n'est pas une statue ou une icône de fer qu'on aurait chauffé.
Il n'y a pas
eu d'impression. Il y a une projection orthogonale, aucun effet latéral. Mystère. La face...
Entre nous soit dit, il semblerait, alors je ne sais pas si ça a évolué depuis le milieu des années 80, mais à l'époque on disait qu'on ne serait même pas capable aujourd'hui, alors peut-être qu'avec les images en 3D maintenant on y arriverait, mais à l'époque on n'était même pas capable de reproduire cette chose.
On n'est pas parvenu à la reproduire intégralement. Non. La face dorsale de l'homme du linceul est exactement de la même coloration que la face, comme si le corps était en état d'apesanteur. Donc on est en plein mystère et depuis les analyses de carbone 14, il y a eu des travaux qui ont été faits. Je pense au travail du professeur Avinohan Danin, qui est juif israélien de l'université hébraïque de Jérusalem, qui a constaté sur le linceul des traces de pollen de plusieurs fleurs, dont certaines ont disparu depuis le 8e siècle. Madame Fleury-Lenberg, qui est une spécialiste à Genève des tissus anciens, au moment de la restauration du linceul en 2000, a constaté que la bande latérale qui parcourt tout le long du linceul, eh bien, il y a une couture tout à fait spéciale, renflée d'un côté et impeccable de l'autre, qui est unique en dehors d'un tissu assez identique à celui du linceul qu'on trouve à Masada, le Masada était la forteresse juive qui a résisté jusqu'en l'an 73.
Oui.
Donc ça, ce sont des éléments nouveaux. Il y a le fait aussi qu'on a comparé avec les deux autres reliques signalées tout à l'heure, c'est-à-dire le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil.
Il y a le sang, c'est ça?
Les pollens sont identiques. Les taches de sang ce
appartiennent
retour,
au même sang. Ça, c'est quand même un peu fort.
Et tout cela appartient au même sang, c'est-à-dire le groupe AB, 4% de la population. Donc, tous ces éléments-là me font dire, moi, en tant qu'historien, je considère que, en l'état actuel des choses, ces reliques sont authentiques, quitte à ce qu'on montre, évidemment, on me démontre le contraire.
Oui, alors le suaire d'Oviedo était moins étudié que les autres, mais il est une relique aujourd'hui très...
Il y a eu des congrès aussi, des travaux d'Espagnols et de professeurs espagnols et américains, qui... Alors, il est moins spectaculaire, parce que ce sont des taches de sang, mais quand vous appliquez ces taches de sang sur le visage de l'homme de la Salle, vous retrouvez les mêmes taches.
Une superposition, oui.
Et la même longueur de nez, 8 cm, donc c'est stupéfiant. Et le sœur d'Oviedo ne remonte que historiquement, dans une chaîne historique, qu'au sixième siècle. Donc, le linceul, difficile de dire qu'il date des années 1380.
La troisième de ces grandes reliques, c'est la tunique d'Argenteuil. Alors moi, j'avais entendu parler depuis très longtemps de cette tunique. Je rêvais de la voir, pour tout vous dire. Mais elle n'est présentée en ostension, comme on dit. Elle n'est présentée au public que tous les 50 ans. Et la dernière fois, c'était juste avant que je m'intéresse à la question. C'était en 1984. Je me suis dit, il va donc falloir attendre 2034 pour la revoir. Or, ça, c'est le miracle de la télévision. Pour les besoins de l'ombre d'un doute, nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires. Il faut rendre hommage à toute l'équipe de production, car croyez-moi, c'est un long travail, c'est beaucoup de courriers échangés. Mais nous avons pu sortir cette tunique. Alors, j'étais là le matin où elle a été extraite de son reliquaire, très, très méticuleusement dépliée par une spécialiste des étoffes anciennes. Et on a vu peu à peu se déployer ce tissu tout à fait extraordinaire que vous croyez vous aussi authentique, Jean-Christian Petit-Fils ?
Du fait de la superposition des taches de sang, notamment le portement de la croix sur l'épaule, qui correspond aussi à une croix complète, et non pas seulement au patibulum qu'aurait porté Jésus. Jean dit Jésus sort en portant sa croix. Moi, je le crois. Donc, c'est un tissu de laine de mouton brun, pourpre, fortement abîmé, dégradé. Il a été coupé en morceaux.
Très bonne qualité, me disait la dame.
Il a été coupé, enterré dans un jardin pendant la Révolution. Alors, il remonte au moins au 9e siècle, puisque c'est l'impératrice Irène de Constantinople qui l'avait offert en gage de fiançailles à l'empereur Charlemagne. Le mariage n'est pas fait, mais la tunique est restée.
Dominique Lang, c'est quand même étrange qu'on ait en France, à quelques pas de Paris, une des plus grandes reliques de la chrétienté et qu'on n'en parle quasiment jamais. Peut-être qu'à partir de l'émission de lundi, ça va changer. Hein, mais
je pense que ça va changer beaucoup de choses. J'ai eu le recteur de la basilique au téléphone qui m'a dit qu'il se préparait à ce qu'il y ait une certaine émotion après cette émission. Mais lui-même constatait que depuis un certain nombre d'années, il y a une nouvelle vigueur autour de la vénération de ces reliques, et de cette relique-là en particulier.
Avec des pèlerins étrangers, notamment, je pense à des Polonais notamment.
Oui, voilà,
qui viennent,
des pèlerins de différentes origines, de la migration, mais aussi de plus en plus, et ça c'est un mouvement très intéressant en Europe, des orthodoxes qui viennent vénérer des reliques occidentales, qui chez nous sont souvent un peu gardées au fond d'un coffre, et eux demandent de pouvoir les vénérer, donc il y a une demande. Et puis même des milieux intégristes, traditionnalistes, qui en profitent en passant pour aussi parler de l'identité catholique française. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui est mélangé. Et le pauvre recteur là-dedans dit, de manière très belle, mais cette tunique, peu importe ce qu'on en pense, peu importe de l'historicité de cette tunique, elle nous rappelle quand même qu'à nous, chrétiens, nous devons d'abord travailler à l'unité de notre communauté.
Alors, il y a 4 pages spéciales sur cette tunique d'Argenteuil. C'est vous qui avez fait le reportage, Dominique Lang, dans le numéro spécial Pâques de Pèlerins, qui est en vente en ce moment même. On pourra voir le résultat de tout ce tournage, de tout ce travail, lundi soir sur France 3, bien entendu, dans l'ombre d'un doute. Et bien entendu, nous ne nous sommes pas contentés d'étudier les reliques. Nous avons essayé d'évoquer la passion sous tous ses aspects. Et nous avons essayé de voir ce que cet épisode tellement central, tellement fondateur de la passion de Jésus, peut nous apprendre sur le personnage lui-même, sur Jésus, sur un certain nombre d'aspects, notamment sur sa famille. Vous me voyez venir, nous allons parler dans un instant des frères de Jésus.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
un extrait de La Passion selon Saint Matthieu, composé par Jean-Sébastien Bach et dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, au cœur de La Passion du Christ, avec vous Franck Ferrand, et vous recevez le journaliste à pèlerin Père Dominique Lang, l'écrivain et historien Jean-Christian Petit-Fils, l'historienne et romancière Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt, et vous êtes nombreux à réagir. Vous avez, Franck, quelques messages d'auditeurs entre les mains.
Alors, il est toujours un peu délicat de donner les prénoms de personnes qui s'appellent TWZ29673.
Oui,
c'est Twitter, mais enfin, en tout cas, une personne sans doute digne de foi profite de l'occasion pour remercier Jean-Christian Petit-Fils de sa passionnante biographie de Jésus. Et c'est vrai que ce Jésus chez Fayard a beaucoup marqué. C'était il y a 4 ans, hein, déjà.
2011, oui.
2011, déjà, le temps passe. Hubert nous dit que tout ce qui n'est pas historiquement prouvable relève de la mythologie. Voilà, le terme est prononcé. C'est aussi un point de vue qu'il faut développer. Alors, justement, parmi les nombreuses questions qui se posent autour de Jésus de Nazareth, il y a celle de sa famille. Alors, je vous rassure, nous n'allons pas aujourd'hui parler de l'hypothétique épouse de Jésus. Ça, ça a fait couler des flots dans
le support. Il n'y a pas de support dans les textes.
Mais alors, Françoise Chandernagor, vous venez de donner la parole à Jude, qui serait, nous dites-vous, le petit frère, mais pas seulement petit frère au sens symbolique, le petit frère biologique de Jésus.
Oui, moi je m'appuie sur des textes que l'Église a elle-même retenus, ce qu'on appelle les textes canoniques qui forment le Nouveau Testament, puisque l'Église à la fin du IIe siècle, la jeune Église...
A fait le tri dans les évangiles.
Il y avait beaucoup de textes, il y avait du n'importe quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui les apocryphes, des textes qui ont été rejetés et qui étaient vraiment très farfelus. Et puis on a continué de produire des apocryphes pendant encore 5-6 siècles. Mais les textes reconnus comme canoniques, qui sont ceux que nous lisons aujourd'hui, les quatre évangiles parlent des frères de Jésus, les quatre. Deux d'entre eux nous donnent leur prénom, dans l'ordre d'âge, c'est comme ça que ça se fait d'habitude, Jacques, José, Simon et Jude. Les actes des apôtres nous parlent également des frères de Jésus, en particulier de Jacques, qui a eu un rôle dans l'Église primitive très, très important. Nous avons une épître de Jude, une épître de Jacques, qui sont aussi dans le Nouveau Testament.
Jacques dit le mineur.
Ouais. Oui, plus tard, mineur, oui. Par identification avec petit Jacques, qui était un apôtre. Mais et nous avons aussi saint Paul, qui parle des frères de Jésus d'une façon amusante d'ailleurs, parce que il dit que les frères de Jésus, quand ils vont en mission, donc apparemment ils ont fait des missions, sont accompagnés de leurs femmes et qu'ils vivent aux frais des communautés, ce qui le met lui en fureur, parce qu'il travaille quand il est en train de prêcher quelque part, il gagne sa vie, et il dit, eux, ils arrivent et ils sont avec leurs femmes en plus, et voilà. Bon, et donc tout ça, évidemment, l'Église à un moment donné a été gênée, mais beaucoup plus tard, jusqu'au 3e, 4e siècle, ça ne fait aucun problème. Jusqu'au 4e siècle, ça ne pose pas de problème. Jésus a eu des frères et sœurs, puisqu'il y a des sœurs aussi. Hein.
Mais quel est le terme? Parce que c'est le terme grec adelphos qui veut dire le frère,
adelphos,
donc adelphoi
oui.
Au pluriel.
Oui, oui.
Il y a des parties d'évangile écrites dans d'autres langues.
Non, pas des parties d'évangile. Dans les évangiles, on peut trouver de temps en temps une phrase en araméen, une citation.
Voilà, c'est ça.
Mais les évangiles, pour ce qu'en pensent les historiens, ont été écrits directement en grec.
D'accord.
Alors les gens maniaient, les évangélistes maniaient plus ou moins bien le grec. Mais on ne peut pas penser par exemple que Luc, dont le grec est la langue maternelle, se trompe entre des cousins, puisque ça a été la thèse après de l'Église catholique, c'est pas la thèse de tous les chrétiens. Les protestants croient à des frères biologiques complètement.
Oui, c'est intéressant. Pour simplifier, les protestants croient que Jésus a eu des frères biologiques.
Oui.
Les orthodoxes disent qu'il a eu des demi-frères,
oui, oui.
C'est-à-dire...
Les fils de Joseph, qui auraient été veufs avant son mariage.
Bien sûr, parce qu'il y a toute la question de la virginité de Marie, c'est ça
oui.
qui est posé.
C'est ça qui est en jeu, finalement, de la virginité perpétuelle, pas du fait qu'elle ait été vierge au moment où elle est enceinte et où elle n'a pas encore consommé le mariage. Elle n'est que fiancée avec Joseph.
Jésus étant le frère aîné
C'est l'aîné. Et donc, sauf pour les orthodoxes qui imaginent des frères plus vieux, mais là, linguistiquement, ça pourrait aller. Adelphos peut vouloir dire demi-frère. Mais ça ne colle pas du tout chronologiquement. Je peux en faire la démonstration, mais ce serait un peu long.
Oui.
Mais
C'est intéressant cet aspect démonstratif, parce que, comme toujours avec vos romans, là, c'est un roman, puisque vous faites parler Jude.
Après, je fais une note de l'auteur, comme je fais toujours.
Je n'entrerai pas, moi, nous ne faisons non pas une émission littéraire ici, mais c'est très intéressant de voir à quel point vous avez capté le ton, le rythme des évangiles, si je puis dire.
Il y a
cette langue du Nouveau Testament.
Bon. Puisque Jude, le petit frère qui a vu des tas de choses et qui a survécu longtemps à Jésus, dans mon roman, verra même la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem par les Romains.
Mais en tout cas, à la fin de ce roman, il y a, comme toujours chez vous, un cahier qui nous permet de faire le tri, si je puis dire, entre le bon grain et l'ivraie. Et vous nous donnez les sources et vous nous expliquez pourquoi et comment vous en êtes arrivé à prendre un certain nombre de parties.
En tout cas, pour les sources sur lesquelles je m'appuie, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai inventé ce personnage et j'ai souhaité, enfin je l'ai pas inventé, j'ai souhaité le faire parler. Et je pense que l'Église a une position peu tenable, l'Église catholique, sur les cousins, en disant qu'il y a eu une confusion. Enfin,
L'Église catholique dit que...
Ce sont des cousins. Alors, parce que dans l'Ancien Testament, il y a parfois un mot, 5-6 fois, A, qui veut dire aussi bien cousin que frère, et qui a été parfois mal traduit par des Grecs, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est écrit directement en grec, il n'y a pas d'original araméen, et donc on ne peut pas croire que des gens qui sont des hellénistes, ou comme Saint Paul qui a connu les frères de Jésus, en tout cas Jacques, et qui parle des autres, Saint Paul, c'est le grec sa langue maternelle, il ne peut pas se tromper entre anepsios, qui veut dire cousin en grec, et adelphos, qui veut dire frère.
Alors vous n'êtes pas la seule, Françoise Chandernagor, à écrire sur ce sujet, puisque exactement en même temps que votre livre sort celui de Simon-Claude Mimouni aux éditions Bayard, qui s'appelle Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth, et lui aussi nous parle d'un frère biologique en l'occurrence.
Oui, absolument. Enfin, quand on analyse toutes les sources, il y a guère de doute. Et en fait, la raison pour laquelle on a modifié ça, non sans peine, et qu'on a dit que c'était des cousins, etc., c'est à l'époque de Saint Jérôme, c'est lui qui trouve le premier cette justification linguistique qui tient pas. Mais à l'époque, il ne sait pas que les évangiles ont été tous écrits directement en grec. Mais Saint Jérôme, c'est au moment où on invente, notamment dans les apocryphes, la virginité perpétuelle. Il faut que Marie n'ait jamais consommé le mariage avec Joseph.
Alors, le but n'est évidemment pas de créer une polémique ici à ce micro. Vous avez répondu, si je puis dire, à Françoise Chandernagor dans les colonnes du Point, Jean-Christian Petit-Fils, parce que vous, cette théorie de frère biologique de Jésus ne vous convainc pas.
Oui. Alors, en effet, on ne peut pas ici développer les choses, mais nous voyons quand même, quand nous regardons les évangiles, que à côté de Marie, mère de Jésus, Marc et Matthieu, donc les deux évangélistes, nous parlent d'une Marie, mère de Jacques et de Joseph. Jamais ils ne nous disent Marie, mère de Jacques et de Joseph et de Jésus. Nous voyons aussi dans l'évangile de Jean une certaine Marie de Clopas qui serait d'après Jésus, et Clopas étant d'après un chrétien égésique du deuxième siècle, le frère de Joseph, donc le mari de... Donc il y a plusieurs Maries. Et il y a eu des enfants.
On peut dire que c'était d'un prénom très répandu.
C'était très répandu. Marie de Magdala.
Il y en avait le tiers de la population féminine s'appelait Marie. Là-bas.
Oui, et même le nom de Jésus aussi était très répandu.
Répandu.
Le nom de Johannan aussi.
Bon. Joseph très répandu. Comme
aussi, voilà. Donc, je crois qu'à partir des mêmes textes, nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions. Nous voyons quand même sur la croix Jésus confiant Jean à Marie et confiant Marie à Jean.
Seulement l'évangile de Saint Jean,
voici
qui est symbolique.
Oui, mais c'est celui d'un témoin. Voici ton fils, voici ta mère. Et ça, dans un contexte culturel juif, ce n'est pas imaginable que Marie ait quitté la fratrie, enfin ses enfants, si vous voulez, si elle avait eu d'autres enfants.
Je vais vous mettre, si l'on peut dire, d'accord, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette idée de faire parler un frère biologique de Jésus, c'est qu'il nous offre sur toute cette histoire, si je puis dire, extrêmement connue, traitée par tous les arts et depuis tant de siècles, un regard tout à fait neuf, et notamment puisque nous sommes ce vendredi saint aujourd'hui, lorsque vous racontez l'arrestation, le jugement et l'exécution de Jésus, Françoise Chandernagor, c'est vécu par quelqu'un de la famille qui n'est pas sur place, qui doit se rendre à toute vitesse avec sa mère. Les voilà partis sur les chemins, etc. Ils apprennent au fur et à mesure ce qui est en train de se passer. Si j'ose dire, on a l'impression de le vivre, tout simplement. Ça, c'est très extraordinaire.
Oui, dans beaucoup de cas, j'ai démarqué les situations des évangiles. Enfin, mais il y a des moments où je me suis dit, il faut que je donne un autre regard, celui qu'aurait eu le petit frère. Bon, et il est lâche comme les autres. Il va un peu plus loin. Mais finalement, il lâche aussi. Et ce que je voulais, c'est que Jésus lui ait dit, et essayé, l'ait aperçu dans la foule, et essayé de lui transmettre quelque chose avant de mourir. Il essaye de lui dire quelque chose. Et le petit, parce qu'il a 19 ans, 20 ans de moins, le petit ne comprend pas, n'entend pas, et finit par s'enfuir de peur qu'on le remarque dans la foule, puisque Jésus a les yeux tournés vers lui. Et donc, et après, il se reprochera toute sa vie. Il devient un des chefs de l'église de Jérusalem, en succédant à son frère Jacques, mais il aura toute sa vie le remords de n'avoir pas écouté Jésus.
Vie de Jude, frère de Jésus, c'est un roman de Françoise Chandernagor qui paraît chez Albin Michel, en même temps que ce Jacques le Juste, frère de Jésus de Nazareth, paraît chez Bayard, sous la plume de Simon-Claude Mimouni. Évidemment, je rappelle votre biographie Fayard, Jean-Christian Petit-Fils, c'est Jésus, tout simplement. Et je rappelle ce numéro spécial Pâques de Pèlerin, qui est dans les kiosques en ce moment, où nous parlons notamment de cette tunique d'Argenteuil, qui sera l'un des grands sujets de l'émission de lundi soir. Dominique Lang. En fait, vous voyez que tout ça fait encore beaucoup de débats, est au cœur de nos préoccupations. Ça doit vous réjouir de ce point de vue.
Ça me réjouit. Et puis en même temps, je suis heureux aussi que ça se passe un vendredi saint où on est d'abord invité à un grand silence.
Vous restez avec nous. Au cœur de l'histoire continue dans un instant sur Europe 1 et Franck Ferrand. Vous répondrez à la question de Christian qui s'interroge, lui, sur les origines du CD et du DVD.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est Christian qui vous demande, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission, quelles sont les origines du CD et du DVD ?
Alors, nous changeons un peu de sujet, là, évidemment. Le compact disque, c'est une des grandes histoires industrielles du XXe siècle, puisque les deux plus grandes marques se sont mises ensemble pour inventer ce CD et, disons-le, pour l'imposer. Parce que vous aviez d'un côté le groupe hollandais Philips, qui s'est chargé de la conception du disque et du système de lecture, et qui avait déjà une certaine expérience de ce genre de lecture grâce au laserdisc qui, lui, était commercialisé depuis 1972. Là, pour le CD, on est en 1979. Mais avec Philips, se sont mis les Japonais de chez Sony qui, eux, se sont chargés de la numérisation audio. Alors, vous savez qu'au départ, on avait un format de 11,5 cm qui pouvait contenir 60 minutes d'enregistrement. Et c'est le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan qui a insisté pour qu'on augmente, que ça passe à 12 cm et 74 minutes. Pourquoi ? Parce que Karajan voulait que sur un seul CD, on puisse avoir en entier sa version de la 9e symphonie de Beethoven. Et donc, il fallait que ça fasse 74 minutes, tout simplement. D'ailleurs, le premier grand CD qui va sortir, c'est Eine Alpensymphonie de Richard Strauss par Karajan, en même temps que l'album d'Abba, The Visitors. Et le premier grand succès, ce sera un album de Dire Straits qui s'appelle Brother in Arms, évidemment, plus d'un million d'exemplaires. Alors, pour ce qui est du DVD, eh bien, le DVD, c'est l'adaptation, si on peut dire, c'est nettement plus tard, on est en 1995. Tout ça se fait sous l'impulsion d'un certain Warren Lieberfarb, qui est le directeur de la Warner. Il faut vous dire que les cassettes VHS étaient en perte de vitesse déjà à cette époque. Le premier lecteur DVD est mis en circulation en 1997 seulement. Ça, c'est de l'histoire immédiate. Et les premiers films français qu'on va pouvoir trouver sur ce support sont Microcosmos et Léon.